Tous les animaux sont frères. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux. L'heure a sonné de la révolte.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Les animaux font-ils partie de notre histoire? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Éric Baratet. Aujourd'hui, deuxième épisode, le Moyen-Âge et la Renaissance. Dans l'Occident du Moyen-Âge, qui est un monde rural, les humains vivent à proximité des animaux, ceux de la ferme ou de la forêt. Les campagnes bruissent des chants d'oiseaux, des aboiements de chiens, du braiement des ânes, du caquettement des poules. Les vaches, parfois, dorment dans les maisons des humains et les réchauffent l'hiver. Il arrive aussi qu'un cerf, une biche ou un renard, animaux pourtant sauvages, s'aventurent subrepticement dans une cuisine pour y voler de la nourriture. Mais l'animal qui domine sans nul doute le quotidien occidental du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle est le porc. Si commun qu'il n'est pas rare de le voir, tout à son aise, traverser la maison du paysan ou l'église du village. Le porc est absolument partout. Et tout le monde veut en avoir un. Pendant des siècles, le cochon restera la viande favorite des campagnes françaises. Chaque paysan, même le plus pauvre, élève au moins un cochon par an, que l'on nourrit avec les restes et les glands de la forêt et qu'on sacrifie au mois de décembre. Du porc, rien ne doit se perdre. La viande, bien sûr, qu'on salera pour la conserver, le sang pour le boudin, mais aussi la graisse qui servira pour les soupes, les pommades ou pour graisser les essieux des charrettes. Ses os, utilisés pour faire de la colle, sa peau pour les reliures de livres, ses poils transformés en pinceaux et sa vessie, pourquoi pas, en cornemuse. Animal le plus familier dans l'Occident chrétien du Moyen-Âge, le cochon, paradoxalement, a mauvaise réputation.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Depuis l'Antiquité, le cochon est un symbole d'impureté, de luxure, de gloutonnerie et de stupidité. Il est aussi synonyme de désordre, lui qu'on voit souvent, comme les chiens, errer librement dans les rues des villes. Et il arrive qu'il provoque des accidents. Le plus célèbre date du 13 octobre 1131. Alors que Philippe, le fils du roi Louis VI, âgé de 15 ans, entre à cheval dans Paris, un cochon affolé soudain se rue sur lui et renverse son cheval. Philippe meurt peu après de ses blessures, sans avoir reçu les sacrements. Une mort d'autant plus infâme que le prince a été tué non pas à la guerre ou à la chasse, mais par un pourceau, animal de Satan. Pour oublier le souvenir de cette mort déshonorante, le roi de France choisira comme symbole de la monarchie, non pas un animal, mais la fleur de lys. Il arrive aussi que le cochon, comme tout autre animal qui a tué un humain, soit jugé et même condamné à mort et exécuté. C'est arrivé par exemple en 1386 à Falaise, en Normandie. Une truie, accusée d'avoir dévoré un enfant de 3 mois, a été jugée et, après avoir été revêtue de vêtements d'homme, a été exécutée en place publique, pendue, saignée jusqu'à ce que mort s'en suive, puis finalement brûlée. Éric Baratet, nous allons revenir dans un instant sur ces étranges procès d'animaux, mais d'abord une question plus générale. Comment le christianisme considère-t-il l'animal? On le sait, les panthéons de l'Antiquité étaient pleins d'animaux sacrés, que ce soit en Égypte ou dans la mythologie gréco-romaine. Qu'est-ce qui se passe avec le christianisme? Il y a une désacralisation de l'animal?
En partie, pas totalement, puisque par exemple le Saint-Esprit peut être représenté sous la forme d'une colombe, le Christ sous la forme d'un agneau. Donc là, il y a une continuité, mais en partie, effectivement, il y a des sacralisations, et notamment au niveau de l'alimentation. Les interdits alimentaires que l'on trouvait dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, vont être petit à petit abandonnés par la version majoritaire du christianisme, celle qui s'implante en Occident. Et puis, ce christianisme majoritaire va aussi reprendre à son compte les idées des philosophes grecs, notamment que l'on trouve chez Platon, chez Aristote. Ces deux philosophes vont avoir une très forte influence sur les pères d'église, puis ensuite sur la théologie médiévale. Et là, on a l'idée, effectivement, qu'il y a une infériorité animale par rapport à l'humain. Ce qui n'était pas le cas, forcément, dans les premiers livres de l'Ancien Testament, dans la Genèse. Et dans le Pentateuque, donc les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, eh bien la différence homme-animal n'est pas si évidente que ça. Hein. Les exégètes récents l'ont bien montré. La différence, elle était plus entre Dieu et ses créatures qu'entre l'homme et les autres créatures. C'est en fait sous l'influence de cette philosophie grecque qu'on va accentuer les différences entre l'homme et l'animal, mais en même temps, au moins jusqu'au XVIIe, XIXe siècle, l'animal garde un très grand rôle religieux. Hein, on s'en sert beaucoup pour donner des leçons de morale aux hommes. Hein. Par exemple, saint François de Sales, dans l'introduction à la vie dévote, qui est le grand best-seller du XVIIe siècle, eh bien saint François de Sales utilise des exemples d'animaux sans arrêt pour montrer aux hommes comment il faut se comporter. Les animaux créés par Dieu et mus par l'instinct savent ce qu'il faut faire. Et donc, il y a un rôle religieux extrêmement important. Et en même temps, il y a une partie de ces animaux qui sont aux mains de Satan, hein, les serpents, etc., les cochons. Et évidemment, ces animaux-là, ils œuvrent aussi contre le bonheur des humains. Ils sont au service de Satan, mais au service de Satan parce que c'est voulu par Dieu. Hein, donc, il y a une participation, on pourrait dire, à l'histoire religieuse.
Comment les humains, en l'occurrence dans l'Occident chrétien, gèrent-ils justement leur détestation du porc jugé satanique et en même temps, ils adorent en manger, quoi. C'est curieux, ce paradoxe.
Oui, alors, il y a des périodes où on a, effectivement, le porc est assez répandu. Et puis, il y a d'autres périodes au Moyen-Âge ou à l'époque moderne où, au contraire, le porc est assez restreint et réservé à l'aristocratie. Au XVIIIe siècle, dans le bassin parisien, il n'y a qu'un paysan sur trois qui a un cochon. Donc, c'est très minoritaire. Et puis, il y a d'autres époques, au contraire, où le cochon est très répandu. Pourquoi cette ambivalence? Ben, c'est un peu comme le chat, finalement. Hein. C'est-à-dire que c'est un animal qui est omniprésent, le cochon, qui vit avec nous et qu'on va manger. Alors, pour pouvoir le manger, il faut aussi le mettre à l'écart symboliquement, hein, le repousser symboliquement. Autrement, évidemment, si on accepte qu'il vive avec nous et qu'il fasse partie de la famille, on ne va plus pouvoir le manger.
Éric Baratet, ces procès d'animaux au Moyen-Âge, pas forcément au Moyen-Âge, d'ailleurs aussi à la Renaissance, c'est quand même assez étrange pour nous aujourd'hui de comprendre ces histoires-là, elles sont assez complexes. Est-ce que ce n'est pas justement considérer tout à coup l'animal comme un humain que de lui faire un procès? La truie, par exemple, à Falaise, elle est vêtue d'habits d'homme pour son procès, elle est condamnée à mort, exécutée. Comment oui. expliquer cela?
Depuis le XVIIe siècle, c'est l'effet du cartésianisme, on a réservé le droit aux humains. Au Moyen-Âge, et ces procès vont durer d'ailleurs jusqu'au XVIIe siècle, et les exorcismes d'animaux jusqu'au XVIIIe siècle, on considère normal de faire des procès parce que ces animaux sont des créatures de Dieu. Et là, on voit l'influence des premiers livres de l'Ancien Testament. Oui. Étant des créatures de Dieu, on ne peut pas, par exemple, décider de les tuer s'il y a eu un incident, etc., sans qu'elles soient vraiment défendues. Et là, évidemment, nous vivons maintenant sur une vision du droit qui est complètement différente, bien que de nos jours, il y a une volonté de réintroduire les animaux dans le droit de plus en plus, hein, pour éviter cette exclusion qu'on a faite à partir du XVIIe siècle.
Éric Baratet, on a évoqué des animaux plutôt familiers des humains au Moyen-Âge, mais il y a aussi dans leur quotidien des animaux dangereux, le loup, le sanglier.
Le loup, tout dépend des périodes, là aussi. À l'époque antique, le loup n'est pas vu d'une manière extrêmement négative. L'apogée oui, du côté négatif du loup, ça va être la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Justement, l'époque où les attaques de loups étaient les plus importantes attaques sur les humains, notamment sur des enfants, sur des femmes, pour des raisons écologiques, c'est-à-dire que les défrichements, l'augmentation de la population, les défrichements faisaient que des populations de loups encore importantes n'arrivaient plus à trouver suffisamment à se nourrir et donc se rabattaient sur des humains. Et au XVIIe siècle, par exemple, apogée de l'attaque des loups sur les humains, eh bien, c'est à cette époque-là que Charles Perrault écrit l'histoire du petit chaperon rouge. Il y a évidemment une concordance historique évidente.
Merci beaucoup Éric Baratet. Dans le prochain épisode, nous parlerons des 18e et 19e siècles, l'animal-machine de la révolution industrielle.